Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur Radio Galère, sur le 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles en partenariat avec Écoforum, en direct de 19h à 20h, pour ce mercredi 10 janvier 2024, première émission de l'année, et donc excellente année à toutes et à tous. Vous écoutez donc l'émission de La Forêt des Possibles, qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et sociales de Marseille et sa région, qui présentent leur cheminement du moi au nous et du nous au tout, à savoir comment est-ce que par rapport à des grandes problématiques qu'on peut se poser, eh bien on s'est posé des questions, on a cheminé, on a créé un projet, on a rejoint d'autres personnes, et ce projet à son échelle transforme la société. Ce soir, pour en parler, nous recevons Charlotte, bonsoir, et Benjamin, bonsoir Benjamin.
Et bonsoir.
Je suis en direct avec Claire.
Salut Marin et bonne reprise.
Merci. Nous avons Sidi en régie que nous remercions.
Bonsoir.
Bonsoir Sidi. Et pour que les informations soient complètes, sachez que vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain entre 9h et 10h, ainsi que en podcast sur radiogalère.fr lorsque vous tapez Écoforum, ainsi que sur Spotify et sur Deezer. Ces informations ayant été données, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et donc, vous donner la parole, Charlotte et Benjamin, pour notre première partie d'émission, qui est celle de présenter un peu quels ont été vos parcours et les questions que vous êtes posées dessus. Est-ce que Charlotte, tu veux commencer ?
Avec plaisir. Alors, je ne sais pas où faut démarrer.
Question libre.
Question libre, ok. Je suis Charlotte, je suis cofondatrice donc de Social Déclic. Avant de m'être lancée dans cette aventure entrepreneuriale, j'étais salariée à Paris en cabinet de conseil en transformation digitale, aussi un terme galvaudé. Et donc je travaillais principalement pour des acteurs du CAC 40. Et ce travail était très stimulant intellectuellement, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, et la vie parisienne aussi. Et comme beaucoup de personnes, ma propre transition personnelle, puisque c'était ta question, ne s'est pas fait en un déclic, contrairement au nom qu'on a choisi pour Social Déclic, mais ça a été plutôt une transition plein de petites graines. Alors déjà, comme beaucoup de personnes, des voyages où on prend conscience de sujets autour de la justice sociale, autour de l'écologie, de la biodiversité, de l'impact carbone. Je crois un point qui a été important aussi pour moi, ça a été mon bénévolat à la Croix-Rouge dans le 20e arrondissement où j'étais bénévole pendant un an et demi, je crois, et où j'ai eu la chance de rencontrer des équipes incroyables et de travailler sur les activités sociales, donc faire la partie accueil et maraude. Enfin, je ne faisais pas des maraudes justement parce que j'étais enceinte à ce moment-là sur une bonne partie. Mais du coup, on faisait de l'accueil dans une unité locale de personnes qui étaient à la rue principalement. Donc là, grosse prise de conscience sur la justice sociale et aussi sur la façon dont c'était mal médiatisé, ce problème-là. Un autre déclic aussi, ça a été une participation à la fresque du climat. Et pour avoir parlé avec beaucoup de freelances en quête de sens et dans leur propre transition, je crois que ça a été un gros point de transition pour pas mal de personnes, en tout cas de prise de conscience. Et après, je crois ce qui a été vraiment le dernier déclic où je me suis dit qu'il fallait que je fasse évoluer les choses aussi dans ma sphère professionnelle, ça a été la parentalité. Et là aussi, je suis loin d'être la seule parce que je crois que 100% des indépendants et des indépendantes qu'on rencontre, qui nous disent qu'ils ont eux aussi envie de mettre du sens et de l'impact dans leur travail, 100% de ceux qui sont parents, la parentalité a été aussi un élément déclencheur. Et donc voilà, ces déclics-là m'ont fait changer des petites choses dans ma vie personnelle. Alors, je suis loin d'être parfaite, mais j'ai essayé quand même de me poser les bonnes questions, de me renseigner aussi, de m'éveiller, de m'acculturer sur ces sujets. Et puis après, j'ai ressenti, comme beaucoup, une forme de dissonance entre ma vie perso et ma vie pro. Et de là, j'ai voulu réfléchir à comment je pouvais aussi mettre du sens moi-même et avoir un impact positif sur la société au travers de mon travail. Et voilà, et après, j'ai eu la chance de rencontrer Colline, qui était en train de réfléchir à ce projet Social Déclic, et du coup, j'ai rejoint l'aventure.
Et ça, on en parlera juste après. Mais effectivement, on voit déjà un peu toutes les prémices du projet qu'on présentera, donc Social Déclic, dont on garde encore un peu le suspense, de savoir quelles ont été les grandes questions et de voir qu'il y avait des tiraillements et essayer de trouver une cohérence intérieure entre des engagements perso, tes compréhensions du monde et puis ensuite la façon d'essayer d'aligner ça dans sa vie. Donc merci pour ce partage. Benjamin, de ton côté, est-ce que tu veux à ton tour présenter les questionnements que tu as eus, né à Allo, enfin je ne sais pas si tu es né à Allo, mais tu es de Allo, avec un regard que tu as sur ta ville de toujours.
Alors non, je suis né dans le 12e à Marseille, mais effectivement j'ai grandi à Allo. J'ai grandi à Allo et Marseille, c'est au final depuis pas si longtemps que ça, 5-6 ans. Sachant que je pense qu'il faut plusieurs vies, à mon avis, pour réellement connaître Marseille. Question, engagement et tout ça. Je crois que j'ai toujours plus ou moins eu une graine un petit peu qui attendait d'être germée au fond de moi. Et c'est que très récemment, au final, au tournant de 2020, voire 2021, que j'ai réalisé clairement que on avait le droit, tout simplement, hein, de dire ben non, ça ne me convient pas et j'ai envie de changer les choses. Et c'est vrai qu'à vrai dire, je n'ai pas la moindre idée, je n'ai plus souvenir comment je suis tombé sur Social Déclic, très honnêtement. Très certainement que j'ai dû rencontrer Charlotte à l'occasion d'un événement, d'un after work, je pense. Et clairement, ça fait partie des personnes, des collectifs qui m'ont fait dire « Ouais, en fait, il y a quelque chose à faire. » Non seulement sur le pro, hein, mais même aussi sur le perso, clairement.
Donc, une graine qui a été arrosée par un certain nombre de rencontres.
C'est ça.
C'est ça. Des rencontres qui sont au cœur de la philosophie de Social Déclic, puisque c'est un des deux grands piliers, avec l'idée d'une communauté. L'autre côté, un pilier de formation. Pour ce que j'ai compris, je fais une petite présentation générale avant que vous donniez évidemment plus la parole pour l'exprimer, pour pouvoir accompagner des personnes qui sont des freelances, et je vous laisserai ensuite le soin d'expliquer ce que c'est, dans l'accompagnement de projets qui se veulent à impact positif. Et ça aussi, on va parler de ces deux termes-là, qui moi me chagrinent un peu quand je les emploie, mais qui sont des mots importants pour essayer quand même malgré tout de donner une catégorie de certaines choses qu'on essaie de nommer. Est-ce que c'est une bonne présentation ?
C'était parfait.
Voilà.
Et je t'inviterai à pitcher pour les prochains événements.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais je te laisse donc pouvoir... Enfin, je vous laisse, tous les deux, pouvoir en parler davantage.
Si vous voulez, je présente rapidement les deux piliers dont tu parlais. Et après, Benjamin, en tant que membre de la communauté, tu pourras nous partager ton regard. Donc, Social Déclic existe depuis 3 ans. Et en fait, est né de deux constats. Le premier, c'est qu'il y avait de plus en plus de freelance. Donc, tu me demandais de préciser ce terme-là. Donc, les freelance, ce sont des travailleurs indépendants qui peuvent avoir différents statuts. Mais souvent, on démarre par la micro-entreprise. Après, on peut évoluer en fonction du statut. Mais c'est-à-dire qu'on vend des prestations de services, une offre de services à des entreprises. Et donc ça, on peut exercer différents types de métiers. Nous, les métiers qui sont beaucoup représentés dans notre communauté et représentés dans le monde du freelancing en France, ça va être beaucoup les métiers autour des nouvelles technologies et du digital, donc les développeurs et les développeuses web, ceux qui s'occupent du design des produits et des services numériques, les experts aussi de des données, de la data. Ça, c'est la première famille très représentée. La deuxième, ça va être les gens qui font du marketing et de la communication, qui vont créer du contenu, qui vont créer des chartes graphiques, des identités visuelles. Et la troisième grande famille, ça va être des chefs de projet, des gens qui savent gérer des partenariats, qui savent aller chercher des fonds. Voilà, donc ça, c'est les familles qu'on retrouve beaucoup chez Social Déclic, mais qu'on retrouve aussi beaucoup en France dans la grande famille des freelances. Et donc, on se rendait compte, d'une part, qu'il y avait de plus en plus de personnes qui aspiraient à être indépendants, parce qu'il y a une forme de désenchantement de l'entreprise, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est des études de marché qui le prouvent. Et on constate d'ailleurs une grande mouvance qui s'appelle la grande démission, qui a été très forte aux États-Unis, donc des gens qui ont quitté en masse leur travail, et pour faire autre chose, pour voyager, se lancer en indépendant, prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour se lancer aussi dans de l'engagement au travers du bénévolat, par exemple. Et donc, voilà, donc une vraie nouvelle façon de travailler, différente, où on a plus de liberté, on choisit ses clients, on choisit aussi le temps, ça c'est important. Mmh. On se rend compte que le temps, c'est quand même quelque chose qui est très important, qui est très riche. D'ailleurs, moi, ça a été aussi une de mes prises de conscience. On m'avait dit, dans la même semaine, on m'avait parlé trois fois d'une même étude que je ne saurais plus citer, que les gens, le plus gros regret qu'ils ont, c'est d'avoir trop travaillé. Et ça m'avait vraiment marqué. Et c'est vrai que le temps, c'est quelque chose de très précieux. Et donc voilà, du coup, il y a de plus en plus de freelance d'un côté. Et je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Il y a une vraie crise de sens, une vraie envie de mettre du sens dans son travail et de participer à son échelle, à travailler à des projets qui ont un impact positif sur la société, donc qui répondent à un objectif de développement durable. Donc il y en a 17 tels que définis par l'ONU. Donc il y a de quoi faire. Et du coup, c'est de se dire, voilà, plutôt que travailler pour Total, désolé, mais c'est souvent eux qu'on me cite en contre-exemple, ben, je vais plutôt essayer de travailler, de collaborer pour une association, une coopérative qui va œuvrer pour la parité homme-femme, pour la biodiversité, pour le climat. Et donc, ce constat-là, on s'est dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution aujourd'hui pour mettre en relation, d'un côté, ces indépendants en quête d'impact, et de l'autre, les structures associatives, les coopératives, les fondations, les ONG, qui auraient besoin d'un freelance pour aller renforcer leurs équipes. Et notre volonté, c'était de créer ça. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec, comme tu le disais, Marin, la communauté et un programme de formation pour les indépendants, pour les aider à se construire une activité pérennes, qui leur permettent de vivre financièrement, mais qui répondent à leurs aspirations en termes de quête et de sens et d'impact positif sur la société.
Mmh. Et alors, pour celles et ceux qui nous écoutent, donc Charlotte, cofondatrice, Benjamin, membre de la communauté. Charlotte, tu nous disais qu'il y avait trois grandes familles de freelance au sein de cette communauté. Le suspense est à son comble. À laquelle de ces familles appartiens-tu? Que fais-tu?
Je ne suis ni un Robin des Bois, ni un infiltré. Je me concentre véritablement, essentiellement, sur les missions qui me permettent d'apporter du sens, de la sensibilisation sur des questions sociétales et environnementales.
Et par quels outils?
Alors, je suis designer graphique. C'est vrai que c'est important de le préciser. Je suis designer graphique, essentiellement du print, mais récemment également du motion design, puisque le mouvement permet une narration assez intéressante pour véhiculer des idées intéressantes. Et concrètement, je fais essentiellement de la vulgarisation de propos un petit peu techniques. Je travaille avec des chercheurs, très souvent au CNRS et l'INRAE, et également un petit peu de ludification. Donc on fait des... avec le collectif Playtime, qui est entre autres à Marseille, essentiellement à Marseille, mais pas que, on fait des jeux de plateau, on fait des outils de sensibilisation et de concertation sous forme de jeux de plateau, pour des chercheurs, donc pour présenter des résultats d'études, permettre de comprendre pourquoi il faut arrêter de construire sur la côte, par exemple, et d'autres choses du genre, comme de la gouvernance territoriale, les vaches, tout ça, tout ça.
Et est-ce que ce sont des projets que tu as trouvés grâce à Social Déclic, justement ?
Alors, les jeux, en l'occurrence, non. C'était avant d'arriver à Social Déclic. Et je crois bien que c'est un petit peu ce qui m'a amené un petit peu aussi à Social Déclic. Ça a commencé un petit peu, le déclic, hein, à commencer là. À vrai dire, avant d'être designer graphique, avant d'être freelance, avant d'être à mon compte, j'étais en management culturel dans la musique actuelle, et l'association dans laquelle j'étais chargé de production faisait de temps en temps des événements à but sociétal. On a bossé par exemple avec SOS Méditerranée. Et à ce moment-là, je n'avais pas encore réalisé de l'importance des choses. Ça me semblait évident que ce sont des questions importantes, et je n'avais pour l'instant pas réalisé. Je me suis mis ensuite à mon compte, et à mon compte, je ne me suis plus trop intéressé à ces questions-là, jusqu'à justement arriver à rencontrer donc les game designers de Playtime, donc les mecs qui font les mécaniques de jeu. Et me rendre compte que tous les projets sur lesquels on était, ça avait un impact positif. Désolé, Marin, pour l'utilisation du terme. En fait. et c'est là, je pense que c'est vraiment là, la graine a commencé un petit peu à pousser. Et je me suis dit, ouais, alors ça, en fait, on peut aussi le mettre dans les autres projets. Et puis voilà, très certainement l'occasion d'un afterwork, j'ai croisé Charlotte et je me suis dit ok, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit Social Déclic, c'est sûr, j'adhère.
Et clairement. Maintenant c'est un non négociable pour toi, c'est forcément des projets à impact positif sur lesquels tu veux travailler. Bon allez, on crève l'abcès, on parle de l'impact positif.
Arrête de tourner autour du pot.
On va arrêter de tourner autour du pot, mais quand même, malgré tout, dernière petite chose là-dessus, on n'est pas sur cette émission pour faire de la pub. Malgré tout, c'est toi, Benjamin, qui est le graphiste en chef de La Forêt des Possibles, dont on a l'émission, avec tout son univers graphique que tu as participé à créer, notamment pour passer de la graine à l'arbre et de l'arbre à la forêt. Les petites graines que tu fais pousser, notamment, qui sont une forme de symbole métaphorique et poétique de ces choses qui grandissent, qui poussent et qui se relient pour faire un système, une société. Beaucoup des personnes qui écoutent ce que c'est que la forêt des possibles en étant uniquement dans la tête se disent parfois « Ok, c'est hyper vaste, mais j'ai besoin de pouvoir quand même me projeter dedans. » Et à partir du moment où ils se projettent dans les images, tout d'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui se déclipse dans la tête, et parce que c'est beau, parce que ça parle, et voilà. Et donc, merci pour ça. Et je t'en prie.
Encore une fois, je le redis, c'était un très agréable plaisir de bosser avec toi sur cette identité visuelle.
Eh ben merci. Et donc, on va pouvoir maintenant rentrer sur ce fameux vif du sujet, à savoir ce mot impact positif. On va faire un peu comme si nous étions avec un procès du mot. Mmh. Moi, je vais devenir le procureur pour dire pourquoi je n'aime pas ces termes. Impact, à partir du moment où on change quelque chose, c'est un impact. Les rugbyman sont des gens de l'impact. Un rugbyman qui met un essai fait un impact positif pour son équipe et négatif pour l'équipe adverse. À mes yeux, ça ne veut rien dire, ce terme-là, même si je comprends tout à fait pourquoi on l'emploie. On dit qu'on est dans l'impact parce qu'on veut transformer et on dit que c'est positif parce que aujourd'hui, on utilise principalement la matière première pour la transformer vers des inégalités et vers la fin de l'utilisation de nos ressources qui nous mène vers ce qu'on appelle le dépassement des 6, des 9 limites planétaires. Ouais. Et positif parce que je ne sais pas sur quel critère on dit que ça c'est positif et là ça ne l'est pas. Et que lorsque on est parfois au cœur d'activités primaires, par exemple quand on fait à manger, là on est vraiment sur de l'impact positif et on peut se dire mais c'est qui tous ces gens des villes qui emploient des termes compliqués alors que en fait venez dans les champs, vous allez faire pousser 2-3 légumes et puis là vous serez bien les pieds sur terre. Est-ce que quelqu'un veut répondre et dire pourquoi est-ce que l'impact positif est quelque chose qui reste fondamental y compris dans ces termes?
Est-ce qu'on a le droit de faire une réponse de Normand, oui et non?
Bien sûr.
En mode oui, c'est galvaudé, mais c'est quand même pas mal de l'utiliser. Du coup, je me lance, je suis d'accord avec toi, l'impact positif, c'est un peu galvaudé, c'est utilisé à toutes les sauces, et c'est pas mal repris dans le greenwashing aussi. Donc nous, c'est vrai que nos décliqueurs et décliqueuses, donc les membres de la communauté, sont assez vigilants à pas se faire greenwashinger, à pas être utilisés à des fins de greenwashing. Et certains sont passés par cette étape-là et ont rejoint Social Déclic en se disant « plus jamais, ça m'a saoulé de mettre en avant quelque chose qui avait finalement pas une fin si d'intérêt général. » Mais ce que je trouve intéressant dans ce terme-là, même si je suis d'accord qu'il faut être vigilant, C'est qu'avant, on parlait que d'économie sociale et solidaire, et ça voulait dire que seules les associations, les coopératives, les fondations et les mutuelles, donc des structures qui ont ce statut-là, pouvaient avoir un impact positif. Et c'est vrai qu'elles, leur cœur d'activité, ces structures-là, c'est de répondre à un objectif de développement durable ou de financer une cause sociale et ou environnementale. Donc, effectivement, c'est les premières qui, historiquement, mais aussi les premières en front pour répondre à ces enjeux-là. Mais aujourd'hui, il y a d'autres structures qui réfléchissent quand même à des modèles économiques qui répondent à un objectif de développement durable, qui ont des approches plus raisonnées. Et je pense que les décliqueurs et décliqueuses de notre communauté, je donne un exemple, un bien de consommation, je vais dire n'importe quoi, un shampoing, et ben une boîte qui va réfléchir au packaging, qui va proposer du solide, qui va réfléchir à tout son process de fabrication, même à sa stratégie marketing et communication, même si ce n'est pas statutairement une structure de l'économie sociale et solidaire, je pense, et tu me diras ce que t'en penses Benjamin, que c'est plus OK de bosser pour cette boîte-là que pour L'Oréal, par exemple. Et après, nous, il y a quand même aussi quelque chose. Donc voilà, moi, je trouve que le premier intérêt, c'est ça, c'est que l'économie sociale et solidaire, il faut répondre à un statut et l'impact positif est un peu plus large que ça. D'ailleurs, nous, on y met les entreprises d'intérêt général, donc le secteur public. On a des freelances, on a un freelance qui a fait une mission chez Pôle emploi, par exemple. On en a une qui est spécialisée pour travailler sur les collectivités territoriales, sur des sujets de design pour les usagers, pour favoriser le vivre ensemble. Donc je trouve que c'est intéressant aussi quand on parle d'impact positif. Et tout ça ne fait pas forcément partie de l'économie sociale et solidaire telle qu'on l'entend. Et après, et là, il faut être vigilant, il y a aussi les entreprises à mission. Mais bon, ça, nous, on le questionne. En tout cas, on peut s'ouvrir les chakras là-dessus. Et après, il y a deux choses que je trouve intéressantes aussi dans l'impact positif. C'est que, d'une part, c'est quelque chose de personnel aussi. Donc nous, dans notre programme de formation, la première chose qu'on invite à faire aux freelance, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie, dans ta sensibilité, dans les combats que tu as dû mener. Peut-être qu'il y a un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Si tu as un frère ou une sœur qui est handicapé, peut-être que les personnes en situation de handicap, tu vas vraiment vouloir mettre tes compétences au profit de structures qui travaillent là-dedans. Peut-être que la biodiversité, parce que tu vis près des calanques, ça va être quelque chose de très fort chez toi. Et du coup, de se poser la question de là où toi, tu as envie d'avoir du sens et de se poser la question aussi par rapport à ta zone de génie. Quelles compétences tu peux mettre au profit de structures. Ce qui veut dire aussi que ça peut être des structures traditionnelles et que tu peux les inviter à aller à réduire leurs externalités négatives. Par exemple, tu fais un site web pour une PME, mais qui ne s'est jamais posé de questions sur l'impact de ce site web. Et toi, tu vas leur dire, je vais essayer de réduire avec vous l'impact carbone de ce site web. On va le rendre accessible pour les personnes en situation de handicap. Et si ça te va, on va appliquer l'écriture inclusive, histoire que la moitié de l'humanité se sente aussi représentée quand elle regarde ton site web. Et du coup, tu as participé à un projet qui a un impact positif, même si tu n'es pas une asso, même si tu n'es pas une fondation. Donc c'est en ça que je trouve que c'est intéressant et que ça rejoint un peu la logique du moi vers le nous et du nous vers le tout, c'est de se dire aussi, moi, avec mes compétences que j'aime faire, ma sensibilité, où je peux aller. Et je peux peut-être aller dans des entreprises classiques et les aider à faire bouger les lignes, ou je peux aller chez ce que nous, on appelle les pure players de l'impact, mais tu ne vas pas aimer non plus, Marc, cette expression, c'est-à-dire les acteurs traditionnels et historiquement de l'économie sociale et solidaire.
Eh bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'une autre personne veut apporter son avis sur ce que c'est que l'impact positif, ou alors, vu qu'il nous reste 5 minutes avant la pause, on peut finir un peu de continuer à parler de social déclic, parce qu'ensuite on aura un débat sur un grand sujet lié au sens dans le travail après la pause.
Mais très rapide.
Vas-y.
Très rapide. Déjà, je plussois sur l'idée selon laquelle il faut un terme qui soit un petit peu plus large et un peu vague, volontairement vague. Après, il faut savoir que les mots, et c'est le designer graphique qui parle, les mots, comme les dessins, peuvent être des symboles, peuvent être des icônes. Et à défaut de ne pas avoir trouvé mieux pour l'instant comme terme pour parler de ce que l'on fait, l'impact positif, quand on dit impact positif, une majorité des gens savent de quoi on parle. Même sans re-questionner la sémantique qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ça qui importe. Après, bon, bah, peut-être qu'on trouvera un meilleur mot. Hein. Ça peut évoluer. Ça serait souhaitable. Dans tous les cas, il y a une certitude, c'est que il faut que la société dans laquelle on est évolue et vers ce que l'on tend, nous, freelance à impact, et même pas nécessairement freelance, hein, on peut très bien avoir de l'impact sans être freelance, c'est vers une société où on n'a pas besoin de dire « ouais, je suis impact positif ouais, ». Il faut que ce soit banalisé, il faut que ce soit normal.
Bah, à mes yeux, de l'impact dit positif, c'est quelqu'un qui travaille dans l'économie réelle et donc qui, sur un territoire, répond à des besoins essentiels du territoire pour les personnes qui y habitent aujourd'hui et par rapport à ce qui arrivera demain au regard des ressources qui vont s'amoindrir et des changements climatiques. Et donc, un boulanger, il fait de l'impact positif parce qu'il impacte sa matière et il fait à manger. Ensuite, celui qui va transporter le pain, c'est pareil. Et donc, pour moi, c'est plus une représentation d'une économie territorialisée où chacun a un rôle et où, un peu comme avant, pour le coup, on savait qui était l'instituteur, qui était le boulanger, qui était le
Oui, mais cette économie-là, il faut qu'elle ait une vision long-termiste. Et le problème actuellement, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui pensent à court terme. Je suis d'accord avec toi, effectivement, le boulanger, etc., etc. Eux, clairement, c'est du long terme, parce qu'on aura toujours besoin de manger, notamment du pain, parce que nous sommes français. mais au-delà de ça, il faut reconnaître qu'il y a une majorité de personnes, de structures dans le monde actuellement qui pensent pognon. Clairement. Je ne crache pas sur l'argent, évidemment, mais il faut que ce soit un moyen et non pas une finalité. Et puisqu'on parlait de Total, je pense que clairement, c'est le bon exemple. C'est, certes, ça fait rentrer énormément de PIB en France, mais c'est en train de détruire clairement la planète. Et potentiellement, dans des années, il n'y aura plus de planète. Clairement. Il y a une chose qu'il faut se dire, et ça va peut-être choquer, mais à un moment donné, personne n'a demandé à être là. Nos parents nous ont fait, ils ne nous ont rien demandé. Partant de ce principe-là, il va y avoir d'autres personnes après nous qui n'auront rien demandé non plus. Donc, quitte à être là, on a pour responsabilité d'essayer à minima que la situation n'empire pas. Et pour moi, de mon point de vue, c'est ça l'impact positif. C'est penser aux autres. Penser à ceux qui sont déjà là, à côté de nous, mais ceux qui vont arriver ensuite, que ce soit les humains ou même des ornithorynques, pourquoi pas.
Débat qui pourrait être bien long encore, parce que là j'aurais plein de choses sur lesquelles j'aurais envie de rentrer, mais on va rester dans notre petit timing. On arrive bientôt à la pause, et avant le débat, je vous propose qu'on puisse un peu clôturer de la présentation générale de Social Déclic. Donc on a compris que c'était pour les freelances qui voulaient agir pour un monde meilleur. Et qui avait deux principales propositions qui leur étaient faites. C'était à la fois d'accéder à une communauté et de l'autre côté d'avoir des formations. Est-ce qu'il y a quelques éléments pratiques que tu voudrais rajouter, Charlotte ?
Ouais, carrément. Donc, juste pour repréciser, donc, la communauté, c'est 140 free répartis un peu sur tout le territoire français, métropole, une personne d'Homtom depuis peu, quelques expats digital nomades, les métiers dont je vous parlais. Donc, c'est une communauté qui, comme toute communauté, vit dans le Slack, mais aussi dans la vraie vie. On organise des événements tous les mois pour se rencontrer dans la vraie vie. On fait des colos aussi. Et Benjamin a participé à une de nos colos. On fait une colo une fois par an. On se met en verre et on réfléchit au sens de notre communauté et à sa raison d'être. Et on partage du contenu. Donc, on a des masterclass, on fait des formations pair à pair. Et le dernier sujet, c'est qu'on partage aux membres de la communauté des opportunités de mission issues du secteur de l'impact positif. Et je crois que même là, on peut être plus précis de l'économie sociale et solidaire, parce qu'à peu près 75%, je crois, des opportunités de mission qu'on partage sont issues du monde associatif. Donc ça, c'est la communauté. Ça fonctionne sous forme d'abonnement. Et si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez booker un petit visio café avec moi. Il y a nos coordonnées sur notre site internet, Social Déclic avec un K. Et voilà, on souhaite échanger avec chacun des membres avant de rejoindre pour être sûr que ce soit le bon match entre notre communauté et ses membres et toi si tu as envie de nous rejoindre. Et après, on a un programme d'accompagnement où là, c'est un programme plus intense sur 6 semaines où on va vraiment aider à construire l'activité de Freelance for Good, donc de freelance qui souhaite pérenniser son activité mais en imitant du sens et de l'impact positif. Voilà.
Merci beaucoup Charlotte. Nous arrivons à cette moitié d'émission, un moment que nous allons prendre pour pouvoir respirer, prendre le temps de se dire que l'impact positif, c'est aussi dans le corps, dans les esprits et dans les cœurs. C'est la tête corps-cœur de l'écologie intégrale. Et donc là, nous allons un peu nous évader. Et qu'est-ce que tu as proposé pour que nous puissions le faire?
Alors, on en a discuté avec Benjamin. Du coup, c'est une proposition partagée. Et donc, on vous propose d'écouter Pomme, la chanson « Les séquoias », parce qu'on s'est dit que les arbres, ça vous parlait bien.
Et oui, sur la forêt des possibles, c'est sûr. Eh bien, merci et on se retrouve à tout à l'heure.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias chanter. Ah, 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 apprivoiser le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent, entremêlés, la sève épaisse et mon sang. Avant les arbres assassinés, avant que tout soit emporté, je veux retourner dans l'allée, entendre les séquoias pleurer. Oh, 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 oh. Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois.
Vous êtes de retour sur Radio Galère sur le 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques et solidaires de Marseille et sa région, et qui montre comment est-ce que chacun se pose une question, crée un projet, et comment est-ce que ces projets ensemble peuvent transformer la société du moi au nous et du nous au tout. Dans la première partie de cette émission, Charlotte, Benjamin, vous avez présenté Social Déclic en tant que structure qui permet à des freelances de pouvoir participer à des projets qui sont un peu meilleurs. Et dans la deuxième partie d'émission, on va parler du sens au travail. Et donc là, je m'adresse à vous qui nous écoutez, auditrices, auditeurs. Je ne sais pas où vous êtes. Peut-être que est-ce que vous êtes en voiture chez vous. Peut-être est-ce que vous réécouterez ce podcast. Et peut-être qu'en ce moment précis, en ce début du mois de janvier, alors qu'il fait gris, froid, vous êtes en train de vous demander ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi ce travail qui m'épuise? Je rentre chez moi, il ne sert à rien, j'allume la télé, c'est le 20h. Je vois le conflit israélo-palestinien. Je vois que les prix ont encore augmenté. Je vois qu'il y a eu une vague de froid qui intervenait juste après un moment très doux. Je vois que l'année dernière, il y avait des sécheresses. Je vois tout un tas de choses et j'ai l'impression que moi, je n'y participe pas. En tout cas, pas à ce que ça puisse être mieux. Voire même, je participe clairement à ce que ça soit pire. Eh bien vous, qui peut-être vous posez ces questions-là, nous allons parler de ces questions parce que je pense qu'autour de la table, en tout cas, je parle pour moi, on se les est franchement posées. Et c'est beaucoup de personnes qui se les posent. Et c'est aussi un peu tout l'enjeu auquel vous abordez avec Social Déclic, c'est de pouvoir retrouver ce sens pour mettre une cohérence profonde. Et donc là, ce qu'on va faire dans cette deuxième partie d'émission, c'est donc de pouvoir aborder cette problématique-là avec à la fois le regard de nos expériences et aussi ce qu'on en pense de façon plus générale. Est-ce que quelqu'un veut débuter et présenter un peu ses réflexions et son cheminement à nouveau là-dessus? Ouh, le silence. Moi, je peux commencer si vous voulez. Hein.
Allez.
Mais ça ferait un peu un monologue.
Non, non, vas-y. Tu veux que je pose la question, du coup?
Vas-y, inversons les rôles.
Alors, Marin, est-ce que tu peux nous dire pourquoi et comment tu as voulu remettre du sens dans ta vie professionnelle?
Alors, je ne dirais pas remettre, parce que moi, j'ai toujours été fasciné par les questions de m'impliquer dans la vie de la cité. Donc j'ai été conseiller municipal des jeunes à l'âge de 14 ans et je voulais passer les concours de l'ENA. Et donc j'ai fait des études pour ça. Sauf que c'est là que va arriver le petit moment où c'est un peu plus compliqué. J'ai travaillé pour des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et après il fallait que je trouve un stage. Et ce stage-là, il y en avait celui qui s'est proposé à moi, c'était l'équipe Affaires publiques RSE de Danone, entreprise à mission, avec un patron... Emmanuel Faber, charismatique, qui avait un discours de régénération et d'impact positif pour la société. Et mon travail, concrètement, c'était d'être lobbyiste pour défendre les intérêts plastiques de Danone, en plein pendant les Gilets jaunes. Et donc je devais négocier pour défendre du plastique pour l'intérêt des actionnaires, tout en regardant ce qui se passait au niveau des rapports du GIEC de l'époque, et tout en regardant ce qui se passait en matière de Gilets jaunes.
Chaud.
Donc la dissonance cognitive était exceptionnellement catastrophique.
Violente.
Je prenais des douches froides tous les matins parce que sinon ça me rendait fou, littéralement. Mm. Je rentrais chez moi en pleurant. Puis après, il y avait plein d'autres choses dans ma vie. Enfin vraiment, c'était la crise existentielle absolue à ce moment-là, qui était arrivée un peu plus tôt d'ailleurs, suite à une rupture amoureuse qui avait chamboulé tout dans la représentation que je me faisais du monde. Et donc j'ai quitté Danone et j'ai fait mon pas de côté à ce moment-là. Donc après, je ne vais pas tout continuer là, je vais vous laisser un peu la parole. Mais c'est à ce moment-là où vraiment pour moi, ça a été un énorme non en fait. J'ai appuyé sur un gros bouton, j'ai commencé par « je vais quitter ce travail-là, c'est pas ça que j'ai envie de faire, c'est jamais ça ce que j'ai voulu faire ». Et ensuite, ça a été pas facile hein, parce que les gens ont commencé à dire « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Il disjoncte. Il a fallu après que la vie continue pour que les gens se rendent compte que j'avais pas tant tort que ça, notamment quand le Covid est arrivé un peu après. Parce que c'était avant le Covid, à un moment où c'était moins la mode de parler de ces questions.
Non, mais c'est compliqué, de façon, le regard des autres, notamment de la famille ou de sa compagne ou son compagnon, parce que c'est une prise de risque et comme tu disais, un pas de côté. Ça effraie souvent les autres qui se disent « mais qu'est-ce qui lui arrive, quoi ?»
Exactement. Voilà, bon, et après, il y a plein d'autres choses chouettes qui sont arrivées sur le chemin. C'est un long chemin. Aujourd'hui, j'appelle ça l'Odyssée d'Ulysse. Hein. Avec des vents contraires, des jolies choses sur le chemin. Mais je ne vais pas faire ce monologue, et donc je vais vous proposer à votre tour de pouvoir parler un peu de ces questions-là, de bifurcation et de quête de sens.
Alors moi, si je peux partager aussi ce moment de dissonance que j'ai connu dans ma carrière professionnelle, c'est donc après avoir été diplômée en marketing digital, j'ai commencé à travailler avec les influenceurs en agence d'influence marketing à l'époque où c'était en train d'exploser. Donc les influenceurs à l'époque, c'était surtout des Instagrammeurs, des YouTubeurs et des blogueurs. Ensuite, d'agence en start-up, je me suis retrouvée sans emploi, un peu du jour au lendemain. Ça a été vraiment le côté choc de cette fin de contrat. Et c'était en 2022, début 2022. Et en 2022, la plateforme incontournable dans les réseaux sociaux et dans les influenceurs, c'est TikTok.
Ah ouais.
Bien entendu, c'est TikTok qui a vraiment détrôné toutes les autres applications.
Les boomers qui réagissent pas. Pardon.
On voit la moyenne d'âge ici autour de la table. Et moi, ça a été vraiment le point de non-retour, c'est-à-dire que cette application abrutit les gens, elle mange leur temps, leur cerveau disponible, elle crée des complexes sur l'apparence physique, et ça a été vraiment le point de fin de carrière dans l'influence marketing et ce début de reconversion slash bifurcation où on passe par une formation en RSE, la fresque du climat qui a été un sacré déclic aussi pour moi, des rencontres, un stage aussi encore récemment. Et puis là aujourd'hui j'en suis dans ce cas de figure où j'ai décidé de me mettre à mon compte en freelance. Donc tout ce que tu dis sur l'impact positif, sur la place qu'occupe le travail aussi dans sa vie, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et aussi j'ai comme eu ce besoin de m'affranchir du monde salariat où je mets à disposition mon temps, qui est la ressource la plus précieuse que je possède aujourd'hui. Parce que le temps que j'ai, c'est du temps que je peux mettre à disposition sur des projets bénévoles qui me font du bien, comme par exemple ma présence ici ce soir, mais aussi sur du temps pour moi. Donc voilà, j'ai aussi un équilibre à trouver et je sais que je suis en bonne voie, mais voilà.
Et ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et moi, je ne vais pas parler forcément de mon cheminement parce qu'en introduction, j'en ai dit pas mal sur les prises de conscience, notamment la fresque, le bénévolat et tout. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est quand même que, et c'est un peu ce que vous avez partagé, c'est que c'est un cheminement. Si tu parlais d'Odyssée, je crois que vraiment, c'est un cheminement. Souvent, on démarre par la sphère personnelle parce qu'on a plus de prise sur ce qu'on fait de son temps personnel, de sa façon dont on... de la façon dont on veut consommer, la façon dont on veut vivre, les valeurs qu'on veut partager, comment on veut se documenter, où. Et une fois qu'il y a ça, tu parlais de dissonance cognitive, c'est vraiment ça, c'est de se dire, le week-end, le soir, à la pause-déj, je pratique tout ça. Et sur mon temps professionnel, c'est ce que tu disais Claire, je participe à de l'hyper-consommation. Comme tu disais Marin avec Danone, je œuvre pour de l'hyper-rentabilité, pour faire plaisir à des actionnaires qui ont d'ailleurs, je crois, sorti le DG dont tu parlais.
Exactement. Parce qu'après, la suite de l'histoire, c'est que je l'ai vu. Et ensuite, il m'a dit « qu'est-ce que je peux faire ?» Je lui ai dit « je sais pas, c'est pour ça que je suis parti. » Et je l'avais invité à ce qu'il puisse virer de bord et lâcher sa voile pour l'aborder d'un autre côté. Et c'est un peu ce qu'il a tenté de faire. Et un an plus tard, il s'est fait virer. Parce qu'il avait d'autres injonctions.
On cite souvent cette histoire quand on parle de l'impact positif et qu'on parle justement des entreprises à mission. Et on donne un peu ce warning-là en disant que la première entreprise à mission, ça a été Danone, mais que malheureusement... ça a été, ils n'ont pas pu aller au bout et que ça montre quand même les limites et toujours ce rattrapage de la rentabilité avant tout. Les actionnaires décident de faire un pas différent, quoi, finalement. Mais pour en revenir au cheminement, et nous, ce qu'on voit en tout cas avec les personnes avec lesquelles on a la chance d'échanger, parce qu'à chaque fois, c'est une richesse de découvrir les parcours des uns et des unes et des autres. Mais c'est ce que tu disais Claire, c'est maintenant je veux choisir mon temps et c'est là où le freelancing, devenir indépendant, permet ça. Et souvent les freelances qui avec lesquels on échange, soit l'ont déjà fait, soit veulent le faire, c'est justement de se dire je choisis ce travail-là pour passer plus de temps avec ma famille souvent et ou me consacrer aussi et donner la place que j'ai envie de donner à un projet artistique et ou du bénévolat. Et il y en a vraiment, c'est très ancré, c'est un jour par semaine dédié au bénévolat parce qu'on a beaucoup de fresqueurs, on a des gens qui font des ateliers d'automne ou d'autres formes de bénévolat à Latitude ou dans d'autres structures. Et du coup, bah c'est vrai que la chance avec le freelancing, c'est ça, c'est de pouvoir vraiment décider de le faire. Et après, là, nous, on apporte un point de vigilance, on essaie quand même d'accompagner les freelances dans cette voie-là, c'est que malgré tout, il faut quand même pérenniser son activité financièrement. Et du coup, on amène les personnes qui font partie du collectif ou qui font notre programme à avoir une vraie réflexion sur de quoi j'ai besoin. Donc sur ça, nous, on aime bien le petit outil dont on parle souvent, c'est le RIB, le revenu induit par les besoins. Donc vraiment se poser la question de combien j'ai besoin et quand même se dire effectivement, je peux avoir du temps pour réfléchir.
Alors juste pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a...
Une alarme
incendie dans les locaux de la friche et nous ne savons pas si nous devons partir ou pas. Nous allons laisser à Sidi le soin de nous le dire.
Qui semble être...
Peut-être que c'est pas mal de jeter un coup d'œil à ce qui se passe et de mettre une pause sonore, je sais pas.
Bah, Sidi est parti regarder, on continue l'émission pendant ce temps-là, mais si jamais l'émission doit cesser d'ici 3 minutes, vous saurez pourquoi.
Les aléas du direct.
Exactement. Mmh.
Mais j'allais justement te poser la question sur l'aspect financier de se mettre en freelance et de donner de son temps sur des projets bénévoles qui, par définition, ne sont pas rémunérés. Est-ce que tu observes au sein de la communauté de freelance des personnes qui font le choix d'être moins payées, de percevoir moins d'argent et donc de, quelque part, diminuer leur niveau de vie, surtout dans un contexte d'inflation où les prix s'envolent dans tous les sens. Mais quelque part, ils se sentent en paix avec le fait de gagner moins d'argent parce que déjà, ils sont alignés au niveau du travail, mais aussi, ils vont consommer différemment, moins,
exactement.
Être moins, enfin, résister aussi aux messages publicitaires, aux promotions, c'est les soldes aujourd'hui, voilà, et ils sont plus en phase aussi avec leur mode de consommation. Ouais.
Carrément, le RIB, ça invite un peu à ça, c'est de se dire de quoi j'ai vraiment besoin, et on invite les gens à avoir cette réflexion avec une logique de sobriété. Et donc, c'est l'occasion de se dire, de toute façon, je comptais moins m'acheter de choses, je comptais voyager différemment et du coup, peut-être de façon moins coûteuse. Et donc, ça permet de poser de combien j'ai besoin parce qu'en fonction de sa situation, on a des charges plus ou moins élevées. Donc ça, c'est le premier point. Et après, nous, on avait vraiment pour crainte, quand on a lancé Social Déclic, de précariser les freelances parce qu'on s'est rendu compte très rapidement, ils étaient prêts à réduire drastiquement leur TJM pour bosser pour des associations. Et nous, on avait peur d'avoir du coup cette externalité négative de précariser les freelances qui faisaient partie de notre communauté. Donc, on a toujours ce discours-là auprès de nos freelances de dire « Vous pouvez un peu réduire, mais plutôt réduisez plutôt le périmètre de la mission que le taux journalier que vous appliquez. » Donc, le taux journalier, en général, c'est comme ça qu'on réfléchit à une prestation. Par exemple, je dois faire une charte graphique, ça me prend 2 jours. Mon taux journalier est de X euros, je dis 400 euros. Et ben, du coup, la prestation, je la vends 400 fois 2. Donc, c'est ça le TJM. Et donc, ce taux journalier, rapidement, les freelances ont tendance à le réduire. Et nous, ce qu'on dit, c'est que non, faut pas le réduire. Faut plutôt voir le périmètre différemment, voir comment on peut collaborer avec la structure pour que tout le monde s'en sorte. Parce que si on réduit trop, c'est compliqué, on se précarise. Et du coup, notre aventure d'indépendant ou d'indépendant, elle est foutue et on va retourner au salariat classique, etc. Après, on a quand même beaucoup de free qui pratiquent 2 taux, un taux classique et un taux solidaire qui va être à 10 ou 15% moins élevé si c'est une structure de l'impact positif. Et ça, c'est une logique qu'on aime bien. On appelle ça la stratégie Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on prend aux plus riches pour permettre aux plus pauvres, ceux qui ont moins de moyens, de bénéficier quand même de ces compétences à moindre coût. Et après, il y a certains audacieux et audacieuses qui testent aussi quelque chose que nous, on pratique dans la communauté quand on met en relation les indépendants avec les freelances. C'est ce qu'on appelle le prix libre. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'il y a toute une réflexion un peu philosophique sur la notion de valeur, de rapport à l'argent et de se dire on peut aussi inviter, si on ne veut pas tout à fait faire du bénévolat, mais qu'on veut quand même permettre à une structure qui n'a pas les moyens de se payer nos services, pourquoi pas réfléchir à un prix libre en fonction des moyens de la personne. Alors ça, on ne peut pas forcément le faire tout le temps, mais on a déjà rencontré, d'ailleurs, on a fait une masterclass sur le sujet, un consultant qui ne vit que de ça, qui ne pratique que le prix libre et il vit très bien de son activité.
D'accord, donc en fait, ça va être le consultant, le freelance qui propose le prix libre ou la structure, j'ai mal compris ?
Je propose que nous, que nous demandions à Benjamin, freelance, comment est-ce qu'il voit la situation. Et alors, la vie aussi.
Oui, mais j'ai bien envie de rebondir sur les questionnements de Claire relatifs à justement les efforts que font les freelances dans le collectif en dehors de, du travail. Hein, réduire notre consommation, etc. etc. Et c'est vrai qu'il y a une telle injonction justement à la consommation que c'est parfois difficile de réduire un petit peu la voilure. Et c'est, de mon point de vue, une des grosses forces de Social Déclic. En tout cas, c'est une des choses que je suis venu chercher moi. C'est des personnes qui me permettent de me conforter dans mes choix de vie. Et très honnêtement, je pense sincèrement que c'est très, 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 très important. Parce que en dehors de ce type-là de collectif, ce genre-là de choses, hein, de pratiques, de réduire sa consommation, etc., 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 on ne peut le rencontrer que dans le milieu associatif. Sauf que le milieu associatif, c'est quand même, d'une certaine manière, un petit peu déconnecté des besoins du travail. Parce que, mine de rien, il faut reconnaître, on a besoin à un moment donné de payer ses factures, et son loyer et de manger. Hein.
Et quelques plaisirs, hein, faut pas en avoir.
Oui, aussi.
C'est important.
Entre autres choses.
Et les imprévus.
Et les imprévus.
Et ouais, je pense sincèrement que c'est quelque chose que j'ai pu trouver chez Social Déclic et que je n'ai pas trouvé dans le milieu associatif. Puisque par ailleurs, je suis bénévole dans quelques assos également.
Et il y a un dernier point, parce que nous, on avait fait une petite étude au sein du collectif pour voir à quel point les gens réduisaient du coup leur prix pour les structures à impact. Et on était plutôt contente de constater que c'était pas tant que ça, donc plutôt pérenne financièrement, donc c'est cool. Par contre, on a constaté qu'il y avait à peu près 20% d'écart entre les TGM pratiqués par les hommes et par les femmes à niveau d'expérience égal. Donc, mesdames freelance, si vous nous écoutez, rajoutez 20% direct. En tout cas, posez-vous la question, allez poser la question à des pairs masculins pour regarder si vous êtes vraiment au bon prix, parce que je crois qu'il y a un sujet là-dessus. On parle souvent des écarts des salaires, mais c'est marrant parce que même quand on s'applique sa propre valeur et qu'on doit allouer sa propre valeur, déterminer sa propre valeur, on a tendance à se sous-estimer par rapport au marché. Donc c'était juste un petit message pour les femmes qui nous écoutent.
Ouais, c'est là où on voit que toutes ces inégalités sont vraiment ancrées, dans la société, ouais. Et même les femmes qui essayent de se déconstruire par rapport à ça. Et notamment tout à l'heure, quand on préparait l'émission, tu mentionnais le syndrome de l'imposteur, de l'imposteur. Triste, ouais. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la bouche de femmes, bon, aussi d'hommes.
C'est très féminin.
Est-ce que tu veux en parler un petit peu?
Ouais, carrément. Nous, c'est un sujet, on en parle pas mal dans la communauté, parce que bon, globalement, on voit deux types de syndrome de l'imposteur. Et clairement, il est plus important chez les femmes. On le voit. Alors, les études le prouvent, mais nous, on le voit à notre petite échelle auprès des personnes qu'on accompagne. Elles l'expriment beaucoup plus. Et donc, les deux ils se déclinent sous deux formes, on va dire. La première, c'est je suis nouveau freelance. Donc, on appelle ça les néo-freelance. J'étais salarié. Je ne sais pas si je suis capable, parce que je ne sais pas si je suis assez bon dans mon métier. Donc, c'est sur l'expertise métier dans un premier temps. Et la deuxième, c'est je ne suis pas un hyper expert du secteur de l'impact. Je n'ai pas écrit un rapport du GIEC. Est-ce que j'ai le droit de travailler pour une association? Et du coup, sur ça aussi, on milite pas mal. On a d'ailleurs fait un épisode de podcast. On a un podcast qui s'appelle Freelance for Good. Et on a fait un épisode podcast qui s'appelle « Faut-il avoir lu tous les rapports du GIEC pour travailler dans l'impact ?» Parce que ce qu'on dit, c'est qu'une association qui a besoin d'une charte graphique, elle a besoin de quelqu'un de chouette, d'engagé, qui s'intéresse à la cause pour laquelle elle œuvre, qui connaît le secteur de l'impact, qui potentiellement a déjà travaillé pour des associations, parce que c'est une culture d'entreprise, de typologie structure qui est un peu différente. Mais sinon, si la personne n'est pas méga experte du sujet, les experts sont dans l'association de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye aussi de véhiculer comme message en disant « t'as pas besoin d'avoir lu toutes les études dans le détail sur la cause sociale ou environnementale de l'association. Déjà, t'y intéresser et avoir une solide envie de travailler avec eux, c'est déjà super, quoi.
On pourrait parler de ces sujets encore pendant tellement de temps. On a ouvert beaucoup de portes ce soir, beaucoup de thématiques. Je vois l'heure qui tourne, et c'est déjà la fin. Est-ce que Benjamin, Charlotte, vous avez tous les deux envie de pouvoir donner une petite dernière phrase, soit sur un élément, on va dire, concret pour pouvoir passer à l'action, ou une petite réflexion philosophique, poétique, pour nous laisser méditer. J'ai regardé Charlotte sur la première question et j'ai regardé Benjamin sur la deuxième.
Alors, sur la première, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est la stratégie des petits pas. Vraiment, il ne faut pas forcément tout révolutionner et dans sa vie pour faire mieux. Et déjà, de se dire, à mon échelle, avec le temps dont je dispose et avec les moyens que j'ai, avec ma zone de génie, là où je suis bon ou là où je suis bonne, qu'est-ce que je peux faire différemment ? Donc déjà ça, la stratégie des petits pas, c'est important. Et si vous avez envie de faire un petit pas avec Social Déclic, on fait des webinaires tous les mois. Donc vous pouvez regarder sur notre site. On adore papoter avec vous, connaître vos petits déclics, vos petits cheminements propres. Donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. On adore ça. Voilà.
Merci Charlotte. Benjamin.
Alors attends, rappelle-moi quelle était la deuxième question.
Non, je disais une dernière phrase pour nous laisser méditer. Voilà. Si jamais tu l'as, c'est la fin de l'émission. Tu as la parole, micro. Qu'est-ce que tu veux laisser comme graine pour les autres?
Je vais donner une petite parole philosophique pour illustrer les propos de Charlotte, les petits pas. Je pense que c'est très important parce que on peut être amené des fois à être face à des personnes qui vont nous dire « Oui, non, mais les petits gestes, ça sert à rien, tatati, tatata. » Alors qu'en fait, au final, c'est quand tout le monde fait des gestes qu'on embarque tout le monde. Et du coup, on peut être amené à un moment donné à se dire « Ouh là là, c'est trop pour moi, je ne peux pas, je ne peux rien faire, je vais abandonner. » Il ne faut pas. On peut baisser les bras, c'est pas un problème. Non, pardon, d'ailleurs, c'est pas ça, je l'ai fait à l'envers. On peut baisser la tête, c'est pas un problème, mais par contre, on ne doit pas baisser les bras. J'ai raté la phrase philosophique, c'est désastreux.
Non, enfin, ça fait rire, et donc ça finit finalement sur un sourire, et c'est ça qu'on retient pour cette première de l'année, de sortir avec une émission souriante, ce qui n'est pas le cas pour toutes les émissions qu'on enregistre, certaines sont parfois plus graves. Merci à tous les deux, toutes et tous, enfin j'essaie de prononcer bien, Benjamin, Charlotte qui avait présenté Social Déclic et puis aussi tes travaux de graphiste freelance au sein de cette communauté. Merci Claire pour cette participation avec moi et Sidi qui rendait ces émissions possibles. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour l'émission de La Forêt des Possibles, et on vous souhaite une excellente soirée.
Bonne soirée, merci à tous.
Merci, au revoir.
Au revoir.